Il est 22h sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec le journal de la nuit.
Europe Nuit,
Christophe Pallais.
Bonsoir à tous, l'actualité ce soir, c'est d'abord ce réveillon sous restriction et ce masque qui redevient obligatoire en extérieur à partir de demain matin. Nous irons d'abord à Cannes, où l'obligation du masque dehors est un vrai casse-tête en fonction des quartiers. Nous reviendrons aussi sur le télétravail, désormais imposé à toutes les entreprises sous peine de sanctions. Vous entendrez la réaction du MEDEF. Également à la une ce jeudi, les menaces et les agressions contre les élus qui se multiplient. Gérald Darmanin veut renforcer leur protection, explications et témoignages dans ce journal. Et puis voilà 20 ans que l'euro a changé nos vies et la vie de 350 millions d'Européens. A-t-il fait grimper les prix ? Vous entendrez l'économiste Christian de Boissieu. Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Cream, est ce soir l'invitée de l'Interview Echo. Et puis nous jetterons un œil, comme chaque soir, aux une de vos quotidiens de demain.
Europe 1.
Vous ne pourrez pas faire sans. Masque obligatoire à partir de demain en extérieur dans toute l'Île-de-France, mais pas seulement. Lyon, Villeurbanne et la Loire-Atlantique ont annoncé aujourd'hui qu'elles emboîtaient le pas à la région parisienne. Dans les Alpes-Maritimes, où il est obligatoire depuis plusieurs semaines, le retour du masque en extérieur vire au casse-tête. À Cannes, s'il n'est pas exigé sur la croisette, il est en revanche de rigueur dans le centre-ville, de quoi y perdre son latin. Le respect du masque est-il suivi à la lettre ? Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Et avec un grand ciel bleu et des températures printanières, il y avait du monde cet après-midi dans les rues de Cannes. Une foule pas toujours masquée malgré l'obligation que Jacques, un retraité cannois, approuve.
Avec ce qui arrive au niveau de nouveaux variants, c'est plus prudent. Et je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait tant de monde dans cette rue sans masque. Regardez, pratiquement personne n'en a.
Alors il y a ceux qui assument.
On entend dire qu'on ne peut pas se contaminer dehors, donc on enlève le port du masque, là on le remet, donc c'est pas logique. Moi j'ose le dire et j'ose ne pas porter de masque.
Et ceux, et pas seulement des touristes, qui avouent ne pas s'être informés de l'obligation du port du masque.
Je ne savais pas, mais je pense que c'est de bon ton de le mettre là où il y a des concentrations de gens.
Moi je l'accepte, oui. Je l'accepte sans problème. Je préfère mettre le masque que de finir à l'hôpital.
Il n'y a pas de contrôle en tout cas. On voit pas de contrôle sur les masques. On porte pas le masque depuis tout à l'heure.
Et puis comme on voit les gens marcher qui l'ont pas forcément.
Moi je suis de Lyon donc non je savais pas. Ça me dérange plus que ça. Si vraiment se protéger, il faut le faire.
Donc là vous allez le mettre.
Et là tout à fait, j'ai dans la poche. Ouais.
En bord de mer aussi, les masques tombent.
Oh, ici j'en vois ici, pas l'utilité.
On est en plein air, je crois pas que ce soit très utile.
Vous aériez qu'ici ça n'existe pas.
Cet après-midi, la croisette était en tout cas noire de monde.
Frédéric Michel depuis Cannes pour Europe 1. Le retour du masque en extérieur ne convainc pas tous les médecins. Pour l'urgentiste Gérald Kirzek, la mesure est même inutile. Il était l'invité ce midi de Thierry Dagiral.
Ça n'a pas de sens. On sait maintenant que le coronavirus, il se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas aérer. La bonne image, c'est quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée, il va se dissiper dans l'air. Le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose. Et puis, le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, si vous croisez quelqu'un, par exemple, elle est extrêmement courte. Donc, c'est pas ça qui va changer la donne sur les contaminations à l'Omicron en particulier.
Gérald Kirzek avec Thierry Dagiral. L'autre mesure précisée aujourd'hui, c'est le télétravail, désormais imposé à toutes les entreprises sous peine de sanctions. La mesure entre en place dès lundi. Une amende de 1 000 euros par salarié est prévue pour les entreprises récalcitrantes. Comprenez celles qui ne respecteraient pas un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine. Annonce ce matin de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui précise que le total des amendes pour une entreprise ne pourra pas dépasser 50 000 euros. Écoutez la réaction du MEDEF par la voix de son porte-parole, Fabrice Le Sachet.
Tout d'abord, la décision n'a pas été concertée. Donc nous, on apprend les choses au dernier moment. C'est pas comme ça qu'on peut organiser nos entreprises et puis c'est pas comme ça qu'on traite les chefs d'entreprise dans ce pays. Ensuite, sur le fond, une amende à 1 000 euros, ça nous semble aberrant. 1 000 euros, c'est le prix pour un usage d'un faux pass sanitaire. C'est pas du tout la même dangerosité. Donc on comprend pas bien la proportionnalité. Et puis enfin, c'est nier qu'il y a des secteurs et des entreprises où le télétravail n'est pas possible. On a des remontées de terrain aujourd'hui qui nous indiquent que les inspecteurs du travail arrivent dans des entreprises et déclarent que tel poste peut et doit être télétravaillé, alors que c'est pas forcément le cas. De temps en temps, il n'y a pas l'infrastructure informatique de sécurité qui permet ce travail à distance. C'est le cas dans les banques, il y a aussi des cas dans des bureaux d'études. Donc il y a beaucoup de secteurs où c'est pas applicable.
Le sachet interrogé par Élise Dangean. Autre précision aujourd'hui du gouvernement, les foires, parcs d'attractions et zoos ne sont pas concernés par la mise en place des jauges, car ce sont des endroits où on circule. Pour rappel, Jean Castex avait annoncé lundi dernier le retour des jauges à 2000 personnes dans les lieux clos et à 5000 personnes en extérieur. Alors la mesure reste bien en place dans les salles de spectacle, cela avait provoqué, vous en souvenez, la colère de plusieurs artistes en début de semaine, mais ce ne sont pas les seuls. Marie Jiquel, les producteurs de spectacles aussi font grise mine, la facture s'annonce salée.
Et oui, tout à fait, c'est l'exemple au Zénith de Paris. Un concert, une date manquée, c'est entre 30 000 et 50 000 euros de perdu pour la salle de 7 000 places. Sa directrice Lily Fischer espère de nouvelles aides de l'État.
On a un bilan très négatif puisque depuis mars 2020, on a fait à peine une petite vingtaine de représentations, sachant que c'est une petite moyenne mensuelle. D'habitude, on est à 150 représentations par an. On espère que l'État sera à la hauteur. C'est vrai que là, on a contracté des PGE. Et l'ironie du sort fait qu'on serait censé commencer à les rembourser en début d'année, ces PGE, au moment où on referme de nouveau notre Zénith.
Vous l'avez compris, les salles comptent sur l'État. Va-t-il repousser le remboursement de ces PGE, ces prêts garantis par l'État ? Les concerts annulés et les jauges réduites à 2000 spectateurs vont plomber les caisses de ces grandes salles. Écoutez Bathilde Lorenzetti, la vice-présidente de Paris La Défense Arena, contactée par Élise Dangean.
On a une jauge limitée à 2000 personnes alors même que nous pouvons en accueillir 40. Nous, le 8 janvier, on accueille Clermont. Le Racing 92 joue contre Clermont. Que va-t-on faire à 2000 personnes ? Moi, je préfère jouer à huis clos. On perdra beaucoup moins d'argent.
Voilà, Christophe Leur est désormais au Tetris géant afin de reporter les concerts et les spectacles au printemps ou à l'automne prochain.
Marie Jiquel du service Société et Culture d'Europe. Et puis pour être complet, la France va assouplir les restrictions de voyage pour les fêtes de fin d'année pour les Britanniques. Précisément pour tous ceux qui souhaitent transiter par le territoire français pour regagner leur résidence dans le reste de l'Europe. Une annonce du ministère de l'Intérieur alors que les nouvelles restrictions françaises suscitaient la confusion de l'autre côté de la Manche. L'autre grand titre ce jeudi soir, ce sont ces agressions et les menaces contre des élus qui se multiplient. Le climat se tend autour du débat sur le pass vaccinal. Certains députés, Victor Chabert, ont même reçu des menaces de mort.
Oui, et le député LREM de l'Oise, Pascal Bois, a même vu son domicile attaqué par des opposants à la politique sanitaire du gouvernement. Son garage a été incendié, sa voiture partiellement calcinée dans la nuit de mardi à mercredi.
On m'a fait part qu'il y avait des tags extérieurs sur la rue. Vous avez un tag qui dit « voter contre » et puis un autre « ça va péter ».
Hier à l'Assemblée nationale, c'est la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui a lu une des lettres de menaces qui lui était adressée.
Si vous ne votez pas non au texte, toute la France se souviendra de l'Assemblée nationale comme un gigantesque bain de sang où giseront les corps qui pensaient nous gouverner. Ma menace est sérieuse, car les actes suivront avec les outils.
Trois députés de l'Isère ont également reçu des menaces de mort en novembre, mais c'est aussi le cas en Moselle ou dans les Yvelines. Ces élus ont tous deux points communs. Ils appartiennent à la majorité présidentielle et s'apprêtent à voter pour le pass vaccinal.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. À propos de ces menaces, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, fera un point précis en janvier avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et avec Gérald Darmanin. Dès hier soir, le ministre de l'Intérieur a appelé les préfets à renforcer la protection des élus. Et vous en savez plus, Gladys Laffitte, sur les mesures qu'il préconise.
Oui, exactement. Dans un télégramme que nous avons pu consulter, Gérald Darmanin a fait passer plusieurs consignes. La plus forte, que les forces de l'ordre passent systématiquement devant les domiciles et les permanences des élus lorsqu'ils sont en patrouille. Il est aussi demandé aux gendarmes et aux policiers d'accompagner avec soin, je cite, les élus qui déposeraient plainte et de faciliter cette démarche en allant directement en mairie ou dans tout autre lieu de leur convenance. Les réseaux sociaux devront aussi être plus surveillés pour détecter les messages de haine et les signaler immédiatement. Voilà, ces consignes interviennent alors que de nouvelles restrictions ont été annoncées par le gouvernement et leurs discussions au Parlement sont susceptibles de susciter des menaces, voire des passages à l'acte contre les élus, écrit Gérald Darmanin. Il en appelle donc à la nécessaire vigilance des forces de l'ordre. Déjà l'été dernier, les parlementaires en particulier avaient fait l'objet de menaces et de nombreux actes de malveillance lors de la mise en place du pass sanitaire.
Gladys Laffitte du service politique d'Europe 1. Alors cette flambée épidémique peut-elle perturber la campagne présidentielle ? Les meetings pourront-ils avoir lieu ? Alexandre Chauveau, le ministère de l'Intérieur, va réunir une commission pour se pencher sur l'organisation du scrutin prévu en avril.
Oui, et Gérald Darmanin, chargé de l'organisation des élections, va d'abord rencontrer Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, à sa demande pour échanger sur les mesures susceptibles d'améliorer le déroulement du scrutin. Le ministre de l'Intérieur réunira donc ensuite l'ensemble des formations politiques pour entamer un dialogue avec elles et surtout faire preuve de transparence. Surtout, ne pas être accusé de faire les choses en catimini alors qu'Emmanuel Macron devrait être candidat à sa réélection dans les prochaines semaines. Alors Jean Castex l'a répété lundi, pas question d'interdire les meetings qui sont de toute façon protégés constitutionnellement. Mais des questions se posent, on l'a vu, sur leur organisation, sur la mise en place des jauges ou la nécessité d'imposer le pass vaccinal à l'entrée. Et puis, compte tenu de la réduction probable du nombre de ces meetings, on évoque par exemple la possibilité de permettre aux candidats d'avoir plus de temps pour présenter leur programme dans les spots de campagne diffusés à la télévision. Le recours au vote par correspondance semble en revanche exclu. En tout cas, le gouvernement l'assure, il n'y aura pas de report des élections. Ces discussions ont simplement pour but d'organiser du mieux possible le scrutin en tenant compte évidemment de l'évolution de l'épidémie.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Avec cette précision, Valérie Pécresse tiendra ses meetings avec jauge et passe sanitaire. La candidate LR à la présidentielle l'a promis aujourd'hui à Nantes. Elle se veut d'être exemplaire. Avec cette justification, s'il y a des jauges pour les spectacles en intérieur, il y aura des jauges dans mes meetings. À Calais, plusieurs affrontements ont éclaté ce matin entre des migrants et des forces de l'ordre. Lors du démantèlement d'un campement, 15 policiers ont été blessés, plusieurs migrants également. La centaine de migrants, très agressifs selon la préfecture, refusaient de quitter les lieux. Écoutez le témoignage de Claire Miot avec Arthur Pereira. Elle est la secrétaire générale de l'association d'aide aux migrants, Salam Nord-Pas-de-Calais.
Ça me révolte, cette façon de ne pas tenir sa parole, surtout dans la période de Noël, où on peut attendre un petit peu de bienveillance quand même. Et donc là, ils étaient en train de rassembler leurs affaires et les autorités ont triché, si vous voulez. C'est-à-dire que pour pouvoir ramasser les affaires, il fallait qu'ils ne soient pas là et ils les ont poussés dehors. On oublie trop que ce sont des gens qui ont faim et si on leur donne pas à manger, ils sont pas bien, des gens qui ont froid. Il y en a plein qui n'ont plus ni tente ni bâche pour se mettre à l'abri cette nuit. Donc, ils vont dormir dans le mouillé sans rien sur eux. Et c'est des êtres humains. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. C'est pas des ombres, c'est pas des nombres de statistiques. C'est des gens.
Claire Miot de l'association Salam avec Arthur Pereira. Ce sont des pièces et des billets qui ont changé la face de l'Europe. L'euro fête ce samedi ses 20 ans. 350 millions d'Européens l'ont adopté avec beaucoup de difficultés au début pour convertir nos francs en euros, vous en souvenez, et parfois l'impression que les prix se sont envolés avec son arrivée. Alors qu'en est-il réellement? Le passage à l'euro a-t-il fait grimper les prix? La réponse de Christian de Boissieux, il est vice-président du Club des économistes.
Il s'est passé 20 ans, donc il y a eu entre-temps un peu d'inflation qui fait que les comparaisons dans le temps valent ce qu'elles valent. Indépendamment de ça, il y a eu un effet inflationniste, mais inévitable, quand vous changez de repère monétaire, quand vous changez de monnaie, il y a toujours des ajustements. Et si on revenait au franc français, ce qui n'est pas d'actualité, j'allais dire heureusement, il y aurait des ajustements également, pas dans l'autre sens, mais dans le même sens. C'est-à-dire que chaque fois que vous changez d'unité monétaire, vous avez des prix qui grimpent. Et fait baisser certains prix, mais des prix, je veux dire, d'achat qu'on ne fait pas tous les jours.
Ouais.
Voilà, on change pas de bagnole tous les jours.
L'économiste Christian de Boissieu avec Thierry Dagiral. Un mot de littérature pour terminer, ce sera sans conteste l'événement de ce début 2022, le nouveau roman de Michel Houellebecq. Vous le trouverez en librairie le 7 janvier. Interdiction de parler du livre avant aujourd'hui, les consignes de l'éditeur sont claires. Son titre, Anéantir, c'est chez Flammarion. Nicolas Carreau a pu lire ses 750 pages, son compte-rendu.
Le livre s'ouvre sur une phrase très houellebecquienne. Certains lundis de la toute fin novembre ou du début décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Fin de citation. Bon, encore une plongée mortifère au plus profond de la solitude, se dit-on. Mais non, très vite on bascule dans une sorte de roman d'espionnage. Des agents de la DGSI sont intrigués par des vidéos diffusées sur le web par des hackers, notamment une où l'on voit le ministre de l'économie Bruno Juge, qui ressemble étrangement à Bruno Le Maire, d'ailleurs se faire guillotiner. C'est un montage, le ministre lui s'occupe d'affaires plus importantes, comme la présidentielle de 2027, dans 6 mois, avec son conseiller Paul Raison. C'est lui le héros du livre. Il travaille beaucoup, son couple est en perdition et son père vient de faire un AVC, ce qui va obliger Paul à retrouver sa famille. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Dans Anéantir, on retrouve l'humour grinçant de l'écrivain, voire son cynisme parfois sur la déréliction de l'Occident, mais on y découvre aussi un Houellebecq apaisé, un Houellebecq à la recherche de la bonté de ces personnages. L'amour sauve, c'est le message du livre, sans doute le plus beau roman de Michel Houellebecq.
Le temps de demain, Marlène Duré, ce sera une fin d'année comme vous les aimez, tout en douceur.
Oui Christophe, la douceur a encore été remarquable cet après-midi, avec des températures maximales de 10 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison sur le flanc est. La douceur va se maintenir demain, même si les températures ont tendance un petit peu à baisser sur l'est du pays. Alors on attend au plus chaud de la journée 11 degrés à Dijon et Grenoble, 12 à Besançon, 13 à Nancy, à Lyon, 14 degrés à Reims, Brest, Agen, 14 degrés également en Touraine, dans le Berry, comptez 15 à Paris et à Marseille, 16 à Bordeaux, 17 à Perpignan, 21 dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes par exemple. Ça peut monter localement jusqu'à 23-24 degrés au pied des Pyrénées. Du côté du ciel, c'est quand même beaucoup mieux avec le soleil qui reprend de la vigueur au sud de la Loire. Une fois les grisailles dissipées, évidemment, des grisailles, on en trouvera en matinée dans les régions du Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Val-de-Saône, le long de la Garonne et puis aussi localement près du littoral méditerranéen. Et puis, une fois ces grisailles dissipées, le soleil l'emportera. Et puis, du côté de la Manche, des nuages arrivent. C'est un flux perturbé et ces nuages vont s'enfoncer en cours de journée depuis la Bretagne et du Pays Nantais jusqu'aux Ardennes en passant par le bassin parisien. Voilà, ce sera une alternance, disons, de nuages et d'éclaircies.
Merci Marlène. Marlène Duré, rendez-vous à minuit pour un nouveau Point Météo. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec en direct Claire Lemaître. À tout de suite.
Europe Nuit.
Christophe Pallé sur Europe 1.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Top à Wall Street. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Christophe.
Alors la journée avait très bien démarré à Wall Street, mais c'est finalement la baisse qui l'emporte pour cette avant-dernière séance de l'année.
Oui, un petit coup de fatigue pour les marchés en toute fin de séance. Le Dow Jones et le S&P 500 étaient pourtant bien partis pour s'offrir de nouveaux records historiques grâce à de bonnes nouvelles pour l'emploi malgré le Covid, avec une baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. Mais c'est finalement du rouge, petite baisse pour le Dow Jones, moins 0,25%, 36 398 points. Et le Nasdaq recule de 0,16%. Les marchés restent en tout cas au plus haut niveau historique. On est bien parti pour une troisième année consécutive de hausse. Wall Street a profité au maximum des plans budgétaires et surtout d'une politique monétaire très accommodante. Le S&P 500 gagne pour le moment près de 28% depuis le début de l'année. Le Dow Jones, lui, a pris 19% et le Nasdaq près de 23%.
Séance difficile aussi pour Tesla qui va devoir rappeler des centaines de milliers de ses voitures électriques.
Oui, l'autorité de la sécurité routière aux États-Unis a annoncé le rappel de plus de 475 000 modèles 3 et modèle S, en cause des défauts, problèmes de caméra, de recul et de coffre, des défauts qui peuvent augmenter le risque d'accident. Le titre Tesla perd 1,5%. Le groupe sud-coréen Samsung Biologics a démenti les rumeurs de discussion pour acheter le laboratoire américain Biogen, rumeur qui avait fait flamber l'action hier et du coup Biogen repère 7%. Le pétrole, il est quasiment stable, autour de $76,50 pour le baril WTI et l'euro perd 0,2%, il s'échange contre $1,1325.
Et c'était l'avant-dernière séance de l'année aussi à Paris et le CAC 40 a terminé lui en petite hausse.
Il est tout près de son record historique battu mardi. Le CAC 40 s'adjuge 0,16%, 7173 points dans des volumes d'échanges vraiment très faibles. Demain, ce sera une séance plus courte avant le réveillon. Le marché parisien fermera à 14h. L'heure, elle est donc pratiquement au bilan à Paris aussi. Et pour le moment, le CAC 40 est l'indice qui, au niveau mondial, réalise la plus forte hausse de l'année à la faveur d'un gain de 29%. L'OMX de Stockholm et le S&P 500 américain le suivent de près. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé ce soir en hausse, à l'exception de Londres qui perd 0,2%. Milan est stable, Francfort gagne 0,2%, Madrid et Amsterdam plus 0,5%. Et à Paris, le CAC 40 s'adjuge 0,2%, 7173 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Elle était l'invitée ce midi de La France Bouge sur Europe 1, Juliette Lévy, la fondatrice de Oh My Crime. Elle répond à Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag.
Juliette Lévy, vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes la fondatrice de Oh My Cream. C'est votre idée, Oh My Cream. Ça existe depuis 8 ans, plus d'une centaine déjà de salariés. Quel succès. Nous, on vous avait connus. Vous étiez venu faire un pitch à la France Bouge. Puis, vous êtes venu nous reparler de votre ascension, du développement de votre entreprise. Et là, vous êtes notre grande patronne du jour. Vous allez rester avec nous pendant toute la durée de cette émission parce que c'est un véritable succès pour ceux qui ne vous connaissent pas, Oh My Cream. Ce sont des magasins de beauté clean, c'est-à-dire que vous vendez des petites marques efficaces pour la peau, qui respectent l'environnement. Elles sont le plus possible en lien avec l'environnement, mais aussi des formulations propres, des emballages respectueux. 8 ans après, 22 magasins, c'est ça? Comment ça va en cette période de fin d'année?
Ben, ça va plutôt très bien. On a traversé 2 années un peu mouvementées, je pense comme tout le monde. On s'est pas mal adapté, on a dû fermer notre 20aine de magasins pendant plusieurs mois. Mais le digital a pris le relais, on a continué d'ouvrir des points de vente, on a lancé pas mal de marques. On a fait 30% de croissance en 2020 et en 2021, donc le moral est au beau fixe.
Ah bah ça va bien là, 30% de croissance. Quand vous dites que le numérique a pris le relais, ça veut dire que pendant les périodes où tous les magasins étaient fermés, vous vous êtes dit on va pas s'arrêter là, au contraire c'est le moment de se faire connaître, on va matraquer les réseaux, on va y aller à fond.
Exactement, on a multiplié les contenus sur Instagram notamment pour divertir notre communauté qui était coincée à la maison. Et puis le site e-commerce a fait des performances incroyables. D'habitude, il représente 50% de notre chiffre d'affaires. Et là, il a quasiment compensé le manque à gagner des magasins avec des opérations frais de port offerts, avec un service client qui était sur le pont, notamment nos conseillères des magasins qui répondaient aux clientes via un chat vidéo online. Donc voilà, plein de petits détails qui ont fait la différence et qui nous ont permis...
Où les clientes sont revenues après en magasin et ont un peu délaissé Internet. Ou grâce à cette période, pardonnez-moi de le dire ainsi, grâce à cette période, vous avez pu bénéficier des deux et vous continuez à bénéficier des deux.
C'est complètement ça. En fait, le digital a pris un essor qui ne s'est finalement pas essoufflé ensuite. Mais on a quand même constaté un vrai retour dans les magasins physiques parce que les gens ont besoin de liens, ont besoin de conseils, ont envie de passer un bon moment dans ces petits concept stores de quartier. Et ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter.
Oui, mais vous aviez bien amorcé finalement la crise, vous entre guillemets, aider puisque vous êtes allé les chercher une par une, les nouvelles clientes.
Et ben en fait, l'acquisition a été très forte pendant cette période. Je pense parce qu'il y a beaucoup de concurrents peut-être qui ont été déstabilisés et qui n'ont peut-être pas eu l'agilité que peuvent avoir ces petites startups de rebondir finalement
comme la vôtre,
et de s'adapter particulièrement rapidement. Et puis c'est vrai qu'on a aussi opté pour des contenus d'un type un petit peu différent.
Comme
je sais qu'on a pris ce qu'on appelle nous en interne le virage de l'holistique. C'est à ce moment-là finalement qu'on a décidé d'aborder la beauté de façon beaucoup plus globale avec moins de produits, plus de pratiques, plus de live de naturopathes, plus de compléments alimentaires, plus de conseils de vie au sens large. Et ça a énormément plu. Et je pense que ça a porté notre ascension pendant cette période. Et puis tous les projets de 2021 le prouvent.
Ce qu'on comprend, c'est que c'est allé, grâce à cette crise, une fois de plus, entre guillemets, vous êtes allé beaucoup plus vite que ce que vous auriez fait. Parce que justement, les produits holistiques, pour être très honnête, moi je ne savais pas du tout ce que c'était avant de préparer cette émission, mais j'étais bien briefé par Elisabeth. Donc c'est grosso modo prendre soin à 360 degrés. C'est ça l'idée des produits holistiques?
C'est ça. En fait, ça fait longtemps que nous, dans l'équipe, on prend soin de nous de façon beaucoup plus globale. Ça veut dire moins de produits et plus de recours à des praticiennes, l'envie tout d'un coup de se mettre à prendre des compléments alimentaires, à faire plus de sport, à appliquer des conseils de naturopathe. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis longtemps. C'est une idée qui a germé il y a longtemps, mais qui a été accélérée par la force des choses pendant le Covid, où on a eu en fait envie d'un nouveau souffle et qui a beaucoup plu aux clientes. Et c'est pour ça que cette année, on a lancé un flagship dans le quartier Montorgueil, justement dédié
là,
à cette nouvelle offre. Voilà, à notre nouvelle offre holistique, avec une dizaine de marques justement sur le secteur des compléments alimentaires et des accessoires beauté. Une offre aussi de nouvelles pratiques avec un sauna infrarouge, des LED pour le visage.
C'est génial.
Et c'est vrai
ça.
Que ça parle beaucoup aux gens qui ont peut-être un petit peu moins qu'avant envie de consommer bêtement des produits et plus envie de prendre soin de soi de façon globale avec ces nouvelles pratiques.
Alors Juliette Lévy, vous êtes unique en quelque sorte au MyCream, parce que moi j'ai un peu cherché, là il n'y a pas vraiment de concurrents.
Non, il y a assez peu de concurrents. Il y a quelques indépendants, des petites boutiques à Paris comme en province, qui font d'ailleurs très bien le travail qu'on fait nous aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grande enseigne qui se positionne véritablement comme une alternative aux mastodontes du sélectif qu'on connaît tous.
Du mass market,
et en
comme
ça,
on dit.
On est un petit peu seul sur le marché.
C'est ça l'idée. Vous êtes des complémentaires ou concurrents. C'est des concurrents ou c'est une offre complémentaire, un Sephora, un OCB
C'est une alternative très complémentaire pour ceux qui sont en quête de davantage de transparence, qui sont sont sensibles à cette nouvelle vague qu'on appelle la clean beauty et surtout, je pense qu'ils ont envie de plus de conseils, d'une expérience un petit peu plus intimiste dans des magasins plus à taille humaine.
Et vous êtes une entrepreneure qui ne s'arrête jamais parce que là, vous avez parlé de cette beauté holistique, mais vous avez aussi lancé il y a 3 ans votre propre marque de produits de beauté avec Oh My Cream Skincare. Mais pourtant, c'est un métier de fabriquer des cosmétiques.
C'est un métier qu'on a appris un petit peu sur le tas, mais c'est vrai que ça faisait des années qu'on avait appris le métier de sélectionner justement les meilleures formules, de décrypter les listing keys, et donc on savait, un, ce qui plaisait aux gens, deux, ce qui faisait une belle formule et un bon produit. Donc on s'est dit que finalement, c'était pas idiot pour nous de se lancer sur ce nouveau métier de la fabrication de produits, aussi parce qu'on avait identifié à l'époque un vrai manque. Le manque en fait d'une marque qui se focalise exclusivement sur les gestes basiques, simples du quotidien, qui sont souvent négligés parce qu'on a l'impression à tort que ce ne sont pas les produits qui vont faire la différence, alors qu'en fait ce sont des gestes fondamentaux qui font toute la différence. Par exemple, on voyait beaucoup de clientes qui venaient chez nous et qui disaient « je veux tel sérum pour résoudre mon problème d'imperfection ». Et en fait, c'est des clientes qui parfois se nettoyaient même pas la peau le soir. Donc on s'est dit « il faut reprendre ce qu'on appelle nous ces gestes essentiels, le nettoyage, l'exfoliation, l'hydratation ». Apprendre aux gens à les faire correctement avec les bons gestes et les bons produits. Et c'est ça, Oh My Cream Skincare. C'est une marque qui se focalise sur ses bons basiques, à la fois simples, clean et efficaces.
Et elle marche bien, cette marque? Parce que vous avez combien de références maintenant dans vos magasins?
Alors, on a à peu près 1500 références pour 1500, une cinquantaine de marques.
Donc, 1500 références, 50 marques, voilà. Plus Oh My Cream Skincare. Voilà. Elle se situe comment, votre propre marque?
Alors, Oh My Cream Skincare, c'est une marque qui compte à peu près une vingtaine de références depuis peu, qui est vendue en moyenne 2 à 3 fois moins cher que les marques qu'on distribue. C'est normal, c'est la clé d'entrée chez Oh My Cream, généralement, pour une clientèle qui est un peu moins experte ou qui a un peu moins de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, la très bonne surprise, c'est qu'elle est numéro 1 en volume et en valeur.
Elle est numéro 1, incroyable.
Alors moi je suis allé regarder quand même un peu plus en détail votre site, parce qu'une fois de plus je connais moins bien qu'Elisabeth, mais j'ai pas vu grand chose pour moi, pour les garçons.
Très déçu.
Elisabeth m'a confirmé qu'il y a un petit manque là-dessus. Alors pourquoi pas grand chose pour l'homme? Parce qu'il paraît qu'on dépense, nous les hommes, de plus en plus.
Vous y mettez quand même, hein, les hommes.
Ouais. Ouais. Il paraît qu'on dépense beaucoup.
Ouais, c'est un marché immense, mais comme parfois à vouloir tout faire, on finit par faire les choses pas très bien. On s'est dit que finalement c'était pas forcément notre rôle. Nous on a une identité, que ce soit graphique ou le ton même, on s'adresse majoritairement à une clientèle féminine, ce qui n'empêche pas à quelques hommes de se retrouver chez nous, puisqu'on a quand même 5% de notre clientèle qui est masculine. La plupart de nos produits finalement sont unisexes. Moi je reste assez convaincue que de développer des produits spécifiquement pour les hommes, c'est jamais qu'un concept marketing. Mais on sait que vous avez besoin d'être entendu, et donc chez Oh My Cream Skincare, via notre marque en propre, on va lancer une gamme courte pour hommes à l'automne prochain.
Et demain, vous retrouvez Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag pour La France Bouge, en direct de 13h à 14h sur Europe 1. Et vous finirez l'année en beauté, au cabaret, avec André Dessimberg, la directrice générale du Crazy Horse. Les unes de vos quotidiens pour demain, 31 décembre 2021, restera une année euphorique pour la Bourse de Paris. C'est à la une du Figaro, avec un CAC 40 qui a gagné près de 30% au cours des 12 derniers mois. Bourse, l'année de tous les records, c'est aussi à la une des échos grâce au dynamisme des secteurs du luxe et de l'industrie. On en parlait dans le journal de 22h avec le dernier Welbeck, le livre « Super-héros du confinement » titre La Croix, avec une croissance historique des ventes en 2021 grâce notamment au jeune public qui est fanat de manga. Ouest France enfin fait sa manchette sur les enfants de la Creuse avec le très joli portrait de Benedicta, arraché à sa famille à La Réunion entre 1960 et 1980 pour être envoyée en métropole. Elle est retournée fin novembre sur son île natale. 22h30 ou presque.
Presque,
ou presque, Sabine Marin, c'est ça?
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Dites-moi, ça ferait une belle histoire pour la Libre Antenne, ce témoignage-là.
Hein. On peut peut-être lui proposer de vous appeler.
Avec plaisir. On vous retrouve, vous, à 23h pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.